Alors aujourd'hui, on va étudier le chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste. On va regarder les versets 12 à 17. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 12 à 17. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé, pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Alors on va commencer par demander au Seigneur de bénir notre étude. Et on va procéder ensuite au sermon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le roi, tu es le créateur, tu es celui qui nous a accordé la vie éternelle, tu es celui qui nous a ouvert les yeux pour nous faire voir la profondeur de notre dépravité et la profondeur de notre péché et les conséquences qui s'en suivaient. Tu nous as aussi ouvert les yeux sur la grandeur infini de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre lorsqu'il est venu sur cette terre. Alors, Seigneur, on te demande ce matin d'être avec nous lors de cette petite étude sur le livre de l'Ecclésiaste qui comprend tellement d'observations sages sur le sens de la vie. Alors, Seigneur, on te prie de permettre qu'on puisse comprendre ce qu'on va étudier et surtout qu'on puisse appliquer dans nos vies les principes que tu veux nous apprendre pour qu'il y ait des changements majeurs dans nos vies, une façon de comprendre la vie qui soit plus proche de celle des Écritures. Permets qu'on soit dans l'obéissance, Seigneur, ouvre nos yeux et bénis l'ensemble de notre étude de ce matin. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai donné comme titre Salomon examine trois choses dans leur connexion mutuelle et leur relation. Alors ça, c'était comme un surtitre, mais le titre lui-même, c'est le second regard sur la sagesse humaine, la folie et la mort. Alors on va regarder qu'il y a trois grandes idées à l'intérieur du passage. On va regarder le second regard, sa portée et sa durée, qui est dans le verset 12. Deuxièmement, on va regarder le second regard, la sagesse humaine et la folie, versets 13 à 16a. Et la troisième idée, on va regarder le second regard sur la réalité ultime de la mort, versets 16b à 17. Alors, juste pour faire un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que c'est toujours utile de le faire, parce que dans le fond, il y a toujours une idée qui est dans un livre et qui est comme un fil conducteur. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de reprendre le fil conducteur à partir du début, et ensuite, on va étudier la partie versets 12 à 17 de l'Ecclésiaste, chapitre 2. Alors, on avait étudié dans le chapitre 1 que Salomon avait tenté, par sa sagesse humaine, d'atteindre une compréhension globale et unifiante de toute la création et des activités des hommes, tant individuellement que collectivement. Il avait été séduit par l'idée qu'il pouvait possiblement modifier le cours des événements de la vie. Sa conclusion était d'une limpidité cristalline. Toute poursuite sans Dieu est vanité, poursuite du vent, et source de tourments. Salomon avait donc explorer ce qui est externe. Il a dû reconnaître que Dieu a rendu tout ultimement imprévisible, incontrôlable et incompréhensible. Il va maintenant passer de l'homme de la sagesse humaine à celui de l'homme du plaisir. Il veut maintenant explorer le côté interne, soit sa propre personne, en tentant d'atteindre le bonheur dans les plaisirs sous toutes ses formes. Dans le chapitre 2, Salomon va passer par trois stages dans sa poursuite et son expérience. Le premier stage, la délectation dans les plaisirs sensuels, qu'on avait vu dans les versets 1 et 2. La satisfaction dans les plaisirs du vin et de la table. Et la troisième, enfin, dans le grand luxe et la magnificence sous toutes ses formes, et dans les grands travaux et les grands accomplissements terrestres, versets 4 à 10. Alors, le verset 11 du chapitre 2 nous donne la conclusion de Salomon sur cette nouvelle recherche. Insatisfaction, inutilité, futilité, source de peine. Cette recherche est vaine, elle est pleine de misère, elle est stérile et elle correspond à la poursuite du vent. L'Ecclésiaste nous démontre de façon efficace la vérité des effets de toutes ces recherches. La recherche par l'esprit, autrement dit par la sagesse humaine, est insatisfaisante et futile. Et la recherche au moyen du corps, par les plaisirs terrestres, conduit exactement au même résultat. Alors, on est rendu au verset qu'on va étudier cette semaine, dans les versets 12 à 17 du chapitre 2. Salomon veut poursuivre et approfondir sa réflexion sur le sens de la vie. Il veut comparer la sagesse humaine avec la sottise et la folie humaine, tout en tenant compte de la réalité ultime, soit la mort. Alors, on va regarder le premier point, le second regard, sa portée et sa durée. Donc, la portée de quelque chose, c'est de voir jusqu'où ça va. La durée, c'est de voir aussi dans le temps, est-ce que cette chose-là... Alors, il regarde la portée, il veut voir la sagesse et la sottise, et il veut le voir jusqu'où ça va, et il veut aussi inclure l'idée de la durée dans le temps. Alors, on relit le verset 12, ça dit « Puis, donc après avoir fait tout ce qu'on vient de voir dans le chapitre 2, puis, je me suis mis à considérer et la sagesse et la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui viendra après le roi, ce qui s'est déjà fait? » Alors, autrement dit, il répond à sa question, il dit « Je me suis mis, après que tout eut fait des choses, il dit « Je me suis mis à considérer la sagesse et la sottise et la folie. » Et là, il pose une question. Que fera l'homme qui viendra après le roi? Autrement dit, celui qui viendra après lui, un autre roi. Et il répond avec certitude, avec assurance, ce qui s'est déjà fait. Autrement dit, il ne fera pas mieux que moi parce que Dieu lui avait donné la plus grande sagesse qu'un homme pouvait atteindre et la plus grande intelligence qu'un homme pouvait atteindre. On avait déjà regardé les versets de cela dans les leçons précédentes. Alors, Salomon avait fait des recherches très approfondies sur le sens de l'existence. Ces deux tentatives, la première, celle par l'esprit, c'était d'atteindre une compréhension exhaustive et globale de la réalité des hommes, tant individuellement que collectivement. La possibilité de modifier le cours des événements de la vie. Sa conclusion était que cette poursuite n'apportait qu'insatisfaction, peine, misère, souffrance et futilité. Dieu a rendu tout imprévisible, incontrôlable et incompréhensible globalement et plus particulièrement si lui n'est pas dans l'équation. La deuxième partie est celle par le corps, donc les plaisirs terrestres. Salomon a expérimenté les plaisirs sensuels du vin et de la table, l'accumulation de biens, le luxe et la magnificence, et les grands ouvrages et les accomplissements terrestres. Sa conclusion avait été la même. Dans le verset 11, il dit « Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et le travail auquel je m'étais livré pour les faire, et voici, tout est vanité et tourment d'esprit, et il n'y a aucun avantage sous le soleil. » Donc, l'Ecclésiaste, ou Salomon, veut élargir sa quête de sens en faisant des comparaisons entre l'utilité de la sagesse humaine et ses avantages si on la compare avec la folie et la sottise. Comme il a fait le tour de la question et que Dieu l'a gratifié d'une sagesse unique, rappelons sa demande à Dieu et comment Dieu l'exauça. Alors, il faut retourner dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, chapitre 3, versets 9 à 12. Il avait dit à Dieu, « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Or, ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit, « Puisque tu m'as fait cette demande et que tu ne m'as pas demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici, je fais selon ta parole, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. » Et quand on va juste un petit peu plus loin dans le même livre, le livre des Rois au chapitre 4, du verset 29 à 30, on apprend, et ça dit, « Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une fort grande intelligence et un esprit aussi vaste que le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux et toute la sagesse des Égyptiens. » Donc, quand on regarde un petit peu le verset 12, c'est que, après avoir tout examiné, qu'on avait vu dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, il veut amener un second regard sur une autre réalité. Autrement dit, il examine sa vie, il voit qu'il l'a menée avec sagesse, mais aussi il veut examiner comment tout cela peut se comparer avec ceux qui mènent leur vie en folie et en sottise. Donc, il veut faire un second regard plus approfondi. Il avait déjà examiné un petit peu ces choses-là dans ses quêtes du chapitre 1 et du chapitre 2. Donc, l'Ecclésiaste ne veut exclure aucun examen de sa quête et de sa poursuite. Et il veut faire aussi un second regard comparatif. Il veut comparer la sagesse humaine avec la sottise et la folie humaine. Il va donc considérer maintenant en comparant les avantages de la sagesse humaine sur la folie et la sottise humaine. Il veut démontrer que la sagesse humaine ne doit être ni sous-estimée ni surestimée. Autrement dit, la sagesse humaine, elle peut apporter beaucoup de choses à un homme, mais elle ne doit pas être surestimée ni d'un autre côté sous-estimée. Mais on va voir quelle est sa limite. On va le voir un peu plus loin dans notre étude. Et il veut faire aussi un second regard qu'on pourrait qualifier d'insurpassable dans le verset 12b, quand il pose la question « Car que fera l'homme qui viendra après le roi? » Et sa réponse est « Ce qui s'est déjà fait. » Autrement dit, il est en train de dire « Comme un roi, Dieu m'a doté d'une intelligence et d'une sagesse unique, exceptionnelle. Et que peut faire un roi qui me succédera? Et peut-il arriver à des conclusions différentes? » Et là, il pose la question, « Que fera l'homme qui viendra après le roi? » Et il répond, « Ce qui s'est déjà fait. Il ne peut pas faire mieux, parce que Dieu lui avait donné le maximum de ce qu'il pouvait recevoir. » Comme Salomon avait entendu ce que Dieu lui avait accordé en termes d'intelligence et de sagesse, il pouvait affirmer que la même recherche, qu'elle soit faite par un autre roi ou un autre humain après lui, donnera les mêmes résultats. Il est conscient que le temps confirmera ses observations. Donc, le premier point qu'on avait regardé, c'est le second regard, sa portée et sa durée. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la sagesse humaine et la folie. Et là, il veut vraiment regarder quel est l'avantage de la sagesse humaine sur la folie et la sottise humaine. Alors, dans le verset 13, on a la sagesse humaine, il affirme que la sagesse humaine a de l'avantage sur la folie et la sottise. Et dans le verset 13, il dit « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Je pense qu'on n'a pas trop de misère à comprendre. Quand on marche dans la nuit, particulièrement un soir sans lune, jusqu'à quel point marcher dans la nature, ou peu importe où qu'on se trouve, si on est dans les ténèbres, c'est extrêmement dangereux. Et l'avantage de la lumière, c'est qu'on voit ce qu'on s'en va, la direction, et on voit aussi comment éviter les obstacles. Alors, nous avons tous connu expérimentalement l'énorme différence entre la vie en pleine lumière, 7 jours, et celle de la marche dans les ténèbres, donc la noirceur de la nuit. Nous avons apprécié les avantages de la lumière. Elle nous aide à apprécier la beauté. Elle est absolument nécessaire à la vie, sous toutes ses formes. Elle nous donne de la sécurité pour éviter les obstacles et les risques de chute ou de blessure. Elle contribue à notre santé et sans doute à beaucoup d'autres bienfaits. Ça, c'est le verset 13. Verset 14. La sagesse humaine est comparée maintenant à la folie et à la sottise humaine. Verset 14, il dit « Le sage a ses yeux dans sa tête, et l'insensé marche dans les ténèbres, mais j'ai reconnu aussi qu'un même accident leur arrive à tous. » Alors, il dit, autrement dit, la sagesse humaine est indéniablement avantageuse. Parce qu'il dit, l'expression « Le sage a ses yeux dans sa tête », ce qui veut dire que les yeux de son cœur, celle de la compréhension, éclairent quant à la direction de sa vie et de sa marche dans la vie. Nous pouvons établir le parallèle avec l'enseignement du Nouveau Testament sur la nouvelle naissance, par exemple. Quand on lit, par exemple, dans Éphésiens, au chapitre 1, les versets 17 à 18, ça dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. » Alors on voit le début du verset 18 qu'il éclaire les yeux de votre entendement. Il y a juste lorsque c'est Dieu seul qui est capable de faire ça par la nouvelle naissance, de nous ouvrir les yeux à la compréhension du salut en Jésus-Christ et de bien d'autres choses encore. Donc la sagesse humaine est indéniablement avantageuse. L'autre idée, c'est qu'il y a des grands dangers et dans la folie et dans la sottise, ce que lui ici appelle les ténèbres. Donc il dit... Et l'insensé marche dans les ténèbres. Autrement dit, la personne qui est folle selon Dieu marche dans les ténèbres, ça marche, c'est son quotidien. Et bien entendu, marcher dans les ténèbres, il y a plusieurs problèmes qui sont reliés à cela. Bien entendu, il y a celui du danger de l'égarement. Si vous vous promenez en pleine nuit, puis qu'il n'y a pas de lune, puis vous n'avez pas de moyen de repère, vous risquez fort bien de vous égarer. Et il y a un autre problème, c'est celui du danger de la chute des blessures. Bien entendu, tu t'en vas dans le bois, tu t'enfarges, tu tombes, il y a des rochers, tu les as pas vus. En plus, tu peux recevoir une branche dans les yeux. Les risques de blessures sont énormes. On lit par exemple dans le proverbe Le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 24. La sagesse est devant l'homme prudent, mais les yeux de l'insensé vont au bout de la terre. Autrement dit, la personne qui est insensée est toujours en train de voir beaucoup trop loin, puis il ne regarde même pas ce qu'il y a devant de lui. C'est un peu l'idée. Alors, le second regard, la sagesse humaine et la folie, maintenant, il veut les comparer. Parce que lui, il connaît les deux, un par observation et par expérience, et il veut comparer de façon absolue les deux. La sagesse humaine a-t-elle de l'avantage? Il a dit oui, mais après, il veut dire de façon absolue. De façon absolue, ça veut dire, si tu décèdes, puis tu as vécu follement, puis si tu décèdes, tu as vécu sagement, est-ce qu'il veut voir la différence? Alors, les avantages de la sagesse humaine sur la folie sont évidents et incontestables. Cependant, Salomon en constate les limites. Les avantages ne s'exercent que relativement, que temporellement, autrement dit, temporellement, c'est ce que tu vis sur la terre, dans le temps, que partiellement. La sagesse humaine, oui, elle te donne des avantages, mais elle ne te donne pas l'avantage absolu. Parce que là, ici, il ne parle pas du salut, il ne parle pas du problème du péché, du problème et autre chose de même nature. Et elle s'exerce aussi de façon restreinte et de façon temporaire, la sagesse humaine. Il n'y a que lorsqu'on sera rendu au ciel que notre sagesse, ça va être celle de Christ, donc elle va être infinie et elle ne sera pas relative, ni temporelle, ni partielle, ni restreinte, ni temporaire. En examinant les deux, la folie et la sagesse, l'Ecclésiaste constate que les deux sont soumis aux vicissitudes de la vie, soit les événements de la Providence. Parce qu'il dit « Mais j'ai reconnu aussi qu'un même accident leur arrive à tous. » Autrement dit, que tu mènes une vie avec la sagesse humaine ou que tu mènes une vie dans la complète folie et la sottise, tu vois, même la personne qui a vécu une vie dans la sagesse humaine, va quand même y arriver des choses désagréables. Et ces choses désagréables-là, ce sont ce qu'on appelle les vicissitudes de la Providence. Alors, le dictionnaire Robert définit les vicissitudes comme étant les choses bonnes et mauvaises, les événements heureux et malheureux qui se succèdent dans la vie. On a tous l'expérience de ça. Nous arrive toutes des choses que nous, on considère bonnes ou mauvaises, ou heureuses ou malheureuses. Et on voit qu'il y a une succession. Après une chose malheureuse, peut arriver une chose heureuse. Après une chose heureuse, peut arriver une chose malheureuse. Et bonne, mauvaise, c'est exactement la même chose. Il y a une succession. Autant pour celui qui a vécu sa vie dans la sagesse humaine que pour celui qui a vécu sa vie dans la sottise et la folie. L'idée est que peu importe comment nous choisissons de vivre, la sagesse humaine ou la folie, il y aura toujours de l'instabilité, de la mutabilité dans les choses humaines. Les choses humaines changent très rapidement, de mal en bien et de bien en mal. Nous devons donc éviter la sous-estimation ou la surestimation de la sagesse humaine. Donc, l'autre point qu'on va regarder, c'est que la sagesse humaine et la folie sont toutes deux soumises à l'oubli dans cette vie. Verset 15. « Et j'ai dit en mon cœur, il m'arrivera comme à l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est une vanité. La mémoire du sage ne sera pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque dans les jours à venir, tout sera depuis longtemps oublié. » Alors, je m'étais servi d'un auteur qui s'appelle David A. Hubbard, dans son commentaire sur l'Ecclésiaste. Il a fait une observation que je considérais très judicieuse, et je l'ai fait traduire un petit peu par la Google Traduction, que j'ai corrigé ensuite après. mais c'est vraiment l'idée. Il dit, nous peinons à construire nos petites pyramides de souvenirs, nos modestes monuments à notre sagesse. Et la mort balaie le terrain comme un sirocco chaud et sec et transforme nos pyramides en dunes de sable qui se ressemblent toutes. Alors j'ai donné dans ceux qui vont télécharger les notes où vous pouvez trouver exactement cette citation. Alors pour comprendre un peu le sens de ce qu'il est en dire, il est en train de dire, il dit que dans nos vies, on est toujours en train de se construire des petites pyramides. On voudrait que les gens se souviennent de nous, un peu comme en Égypte, il y avait des énormes monuments, il voulait que les gens se souviennent. Mais il dit que dans la vie, on a tous nos petites pyramides de souvenirs. On a tous aussi des petits modestes monuments. On veut que les gens se souviennent de nous, dans notre sagesse, notre intelligence, nos œuvres, ce qu'on a fait. Alors ici, lui, il compare ça, il dit la mort, c'est exactement comme dans le désert quand le sirocco souffle. Autrement dit, faut se souvenir c'est quoi le sirocco. Rappelons que le sirocco est un vent violent du désert du Sahara, très sec et très chaud, chargé de poussière ou de sable et qui modifie l'environnement du désert. Quand il y a une tempête dans le désert, on a vu ça un petit peu là, dans des films qu'on a vus. Mm. Tempête du désert, c'est, le vent est très puissant, très chaud, très sec. Et ce qu'il fait, c'est qu'il déplace du sable. Non seulement à l'intérieur du vent, il y a du sable qui se déplace et de la poussière, mais tout cela, ça finit par toutes les dunes qui sont là. Les dunes, c'est les amas de sable. Ils finissent par toutes être balayés, ils finissent par se ressembler les unes les autres. Et il veut comparer la mort à cela. Quand on meurt, toutes nos petites pyramides, puis nos petits monuments à notre propre sagesse ou à nos œuvres sont balayés complètement et le temps finit par oublier toute chose. Le même auteur, Hubbard, continue son propos en précisant le sens du mot « oublier » dans le verset 16. Voici ce qu'il dit. Il dit « oublier » signifie souvent plus qu'un simple trou de mémoire. Cela suggère que le souvenir et l'impact de notre existence seront effacés comme si nous n'avions jamais vécu. Il y a de quoi ramener l'homme à l'humilité. Autrement dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu veux que les hommes se rappellent de toi, il est en train de te dire que le temps va tout effacer, de la même manière que le sirocco fait déplacer les dunes, ils finissent toutes par se ressembler. Alors c'est vraiment, on peut dire que la mort est la grande effaceuse. Autrement dit, la mort finit par tout effacer. Combien de personnes avant nous, dans les générations précédentes, on se souvient d'eux autres. Souvent, et la seule chose qui fait qu'on se souvient encore d'eux autres, c'est si on va au cimetière puis qu'on voit le monument. À part de ça, là, puis que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans le cimetière, bien souvent, ton nom est complètement effacé. C'est comme si tu n'avais jamais existé, c'est vrai. Mm-hmm. Troisième point qu'on va regarder, c'est le second regard sur la réalité ultime de la mort. Alors, bien entendu, quand Salomon veut comparer la sagesse humaine avec la sottise et la folie, et il veut regarder ça à la lumière de la réalité ultime, qui est celle de la mort. On va tous y passer. Alors il dit, dans le verset 17, c'est-à-dire le verset 16b, donc la deuxième partie du verset 16, quand il dit « Comment le sage meurt-il de même que l'insensé? » Autrement dit, que tu aies mené une vie sage avec la sagesse humaine ou que tu aies mené une vie folle et insensée, bien, il dit qu'on meurt tous. Comment le sage meurt-il de même que l'insensé? Il est comme un peu scandalisé en disant que j'ai mené une vie sage ou que j'ai mené une vie folle, on va tous y passer, tout le monde va mourir. Et là, il dit dans le verset 17 quelque chose qui est très fort comme expression. Hein. « J'ai haï cette vie, car les choses qui se font sous le soleil m'ont déplu, car tout est vanité, et tourments d'esprit. Donc, le verset 16b, on voit que la mort a un effet niveleur sur l'existence humaine. Niveleur, ça veut dire qu'il est mis sur le même niveau. Alors, qu'on soit sage, qu'on ait été sage humainement toute notre vie, ou qu'on ait été fou et plein de sottises toute notre vie, la mort va finir par niveler toute chose. Alors, Salomon constate ici que la manière dont nous avons vécu n'empêchera nullement la réalité de la mort, que certains auteurs ont qualifié de la grande faucheuse, de tous les hommes. Peu importe leur instruction, leur classe sociale, leur race, leur sexe, voire même leur âge. Quand on regarde ça, Pharaon, il ne pouvait pas avoir plus riche, plus puissant que ça à l'époque, et il pensait à la même chose que tous les autres. Que tu sois pauvre, que tu sois jeune, que tu sois femelle, que tu sois mâle, que tu sois instruit, que tu sois ignorant, ça n'a aucune importance. Tout le monde va mourir, tout le monde meurt, tout le monde va mourir. Donc, première constatation que l'Ecclésiaste fait, c'est que la mort est universelle. Il n'y a pas aucun être humain qui ne la connaîtra pas. Elle va arriver à tous. On voit que elle a des caractéristiques qui provoquent la peur, ceci particulièrement chez les personnes qui n'ont pas reçu la conversion, qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Dans le livre de Job, dans le chapitre 20 au verset 25, il parle des méchants, il dit que les méchants, lorsque la mort approche, et il est en proie aux terreurs de la mort. La plupart, je dirais que la majorité des êtres humains, s'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu, ont peur de la mort. Alors, il y a aussi un autre aspect à la mort qui leur fait, les fait réfléchir. On dit que la mort est inéluctable. Inéluctable, ça veut dire qu'absolument personne ne peut l'empêcher ni l'éviter. Et la mort est inexorable, absolument personne ne peut s'y soustraire. Tu sais, dans toutes les choses de la vie, quand on regarde, les riches finissent toujours par se soustraire à peu près à tout, mais ils ne peuvent pas se soustraire à la mort, aucunement. Et aussi, il faut se rappeler que les Saintes Écritures nous enseignent que la mort est divinement décrétée. Dieu lui-même a dit, dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors, aujourd'hui, c'est de la folie que les hommes, certaines classes de la société, se croient qu'ils vont pouvoir éviter la mort. C'est complètement une idée, complètement farfelue et complètement folle. C'est la terrible réalité de la mort physique, de la mort spirituelle, et de la mort éternelle, à moins que Dieu fasse grâce. Donc la mort, c'est quelqu'un qui vient au monde, et un jour ou l'autre, il va mourir physiquement. Lorsqu'il vient au monde, il est déjà mort spirituellement, et s'il ne reçoit pas la grâce de Dieu au cours de sa vie, il va connaître la mort éternelle qui est l'enfer. Alors la mort est là pour châtier notre orgueil, et pour nous humilier de notre autosuffisance. Et autre chose, la mort a aussi un effet décapant sur nos illusions. Alors, quand on a un meuble qu'on veut décaper, c'est qu'on enlève les imperfections, la vieille peinture, ça fait de même décapant, ça veut dire que ça enlève nos illusions. Alors, la mort a cette caractéristique-là de décaper nos illusions. L'expression « et j'ai haï cette vie » est un langage extrêmement fort pour un pédagogue sage dont la vocation de base est de trouver et d'enseigner la clé du succès dans la vie. C'est une déclaration pour nous aider à saisir la profondeur du déplaisir, de la souffrance et des désillusions de sa quête. Tout est vanité et tourments d'esprit. Il constate la futilité de la vie sans Dieu, que ni la richesse, ni le pouvoir, ni les plaisirs frivoles ne peuvent le satisfaire. Tout est précaire, fragile et instable. Autre chose, je pense, que le passage nous enseigne, c'est que le problème de la mort ne peut être résolu par la sagesse humaine. Alors, on le voit ici, Salomon avait reçu une énorme quantité de sagesse et d'intelligence de la part de Dieu, et il n'arrivait pas à résoudre le problème de la mort, qu'on appelle. Mais le Nouveau Testament, lui, nous rappelle que seule la croix peut donner une réponse à notre existence, un but à notre vie, et résoudre le problème de la mort. On va aller regarder quelques versets du Nouveau Testament pour nous rappeler cela, parce que c'est important, après une étude de même, de voir que le Nouveau Testament, lui, donne une réponse et a amène une solution au problème de la mort. Alors, allons regarder dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 21. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » 1 Corinthiens chapitre 3, versets 18 à 20. « Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. » Autre passage que déclaration, versets 25 et 26, de par Jésus lui-même. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Le sage en Christ ne connaîtra pas la seconde mort. C'est une des conclusions du livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 6, la deuxième partie. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, en parlant des croyants. Alors, j'ai trois applications qu'on peut tirer de cette brève étude, de ce passage. La première application, la sagesse humaine est supérieure à la folie et à la sottise. Cependant, elle a ses limitations. Elle ne permet pas d'éviter la mort et les vicissitudes de la vie et ne résout pas le problème de la mort. Seule la personne et l'œuvre de Christ peut le faire. Deuxième application. L'Ecclésiaste nous certifie qu'imiter sa quête de sens nous amènera inexorablement aux mêmes conclusions. Futilité. Tourment d'esprit et souffrance. Une vie sans Dieu est extrêmement dangereuse et n'apporte aucune authentique satisfaction. Troisième application, toute la vie humaine n'a de sens qu'en Dieu le Père, qu'en Dieu le Fils Jésus-Christ et qu'en le Saint-Esprit. Prions le Seigneur de nous donner d'agir conséquemment. Que notre grand Dieu soit loué béni et adoré éternellement. Amen.